Salut à toi, voyageur du quotidien. Je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves. Alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello cher entrepreneur, si c'est ton premier voyage avec nous, sois le bienvenu à bord de ce podcast. Te sens-tu parfois dépassé par la vitesse de la vie, t'empêchant de profiter du moment présent? Dans cet épisode, nous allons apprendre à ralentir pour mieux accélérer. Es-tu prêt à découvrir la puissance de la pleine conscience dans ta productivité? Alors attachons nos ceintures et plongeons dans l'art de la pleine conscience. C'est parti! Souvent, c'est la course contre le temps. Et on a un peu ce paradoxe de la hâte. C'est-à-dire que si tu imagines Elon Musk, qui malgré son agenda extrêmement chargé, prend le temps de méditer, tu vas voir qu'il y a quelque chose d'intéressant à comprendre derrière. Cette pratique semble contre-intuitive dans un monde qui valorise la vitesse, mais Elon Musk montre, comme beaucoup d'autres entrepreneurs ou personnes qui sont passées par là, montre qu'un moment de pause peut mener à une productivité accrue et à des décisions plus réfléchies. De mon côté, ça m'arrive de faire des pauses à des moments précis, justement lorsque je sens par exemple que j'ai besoin un petit peu de recharger mes batteries, mais aussi par exemple ça peut être quand on sent qu'on est en train d'être en difficulté en fait sur un problème et qu'on a du mal à trouver une solution. Plein de situations ce jour-là, ça peut être très intéressant de prendre du recul, de se faire un moment de pause et de pleine conscience, ça marche très très bien. En fait, ça fonctionne parce que la méditation aide à réduire le stress et à clarifier l'esprit, permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et ça, c'est précieux, surtout dans la vie en général, mais en tant qu'entrepreneur, si par exemple tu n'es pas clair sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes, à qui tu t'adresses, là où tu en es, plein de situations comme celle-ci, si tu n'es pas au clair, ça peut devenir très compliqué et ça peut faire que finalement tu n'es pas aussi efficace que tu pourrais l'être. Donc la méditation permet ça. C'est un des outils. Il y en a d'autres, mais celui-ci fonctionne très très bien. C'est un outil que tout le monde peut utiliser, même quelques minutes de méditation chaque jour, au moins régulièrement, peuvent avoir un impact significatif. On est souvent aussi dans le mythe du multitâche. Si on prend Marie Curie, par exemple, elle s'est concentrée toute sa vie sur quelque chose d'important qui lui tenait à cœur. Alors oui, parfois, on aborde une autre partie du sujet. Parfois, on va voir d'autres points qui vont nous aider à venir clarifier tout ça et à venir aller vers vraiment le cœur du problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Marie Curie n'aurait jamais pu se concentrer sur ses recherches révolutionnaires sans une capacité à se focaliser en fait intensément sur une tâche à la fois. Comme pour beaucoup de personnes, que ce soit dans le champ des sciences, mais aussi dans le champ de l'entrepreneuriat ou de l'industrie, il y a un moment donné, ou même des services, la concentration, en fait, le focus aide énormément. Et c'est le fait d'être justement aussi en pleine conscience sur ce qui se passe. Sur, par exemple, moi je vois en accompagnement, c'est d'être en pleine présence, même on dit, face à la personne qui nous raconte son histoire, face à ses difficultés qu'elle nous explique. Et ensuite, on peut l'aider encore mieux grâce à ça. Donc, c'est intéressant d'être focus, malgré les distractions de chaque époque, en fait. Et ça, on sait qu'il y en a beaucoup. La science montre, et le téléphone peut en être un, ça peut être aussi des séries, quoi que ce soit, même nos propres émotions, qui sont aussi positives, mais elles peuvent, à des moments, être plus perturbantes. Voilà. La science montre que le multitâche diminue en réalité la qualité et l'efficacité du travail. Se concentrer sur une seule tâche à la fois augmente la qualité de ce qu'on appelle l'output, donc le résultat aussi, et réduit les erreurs. Un outil pratique est de planifier des blocs de temps dédiés à une seule activité. Alors, tout le monde n'est pas fan de ça, mais ça marche très bien également. Moi, je sais qu'en tout cas, ça marche bien sur moi. Souvent, j'aime bien travailler justement par bloc parce que je peux vraiment me concentrer. Je déteste en fait me faire, déconcentrer. Alors, c'est déjà parce que après, il faut prendre le temps de s'y remettre. Mais aussi, moi, personnellement, en tout cas, ça me pompe de l'énergie. Il y en a qui, ça va moins déranger. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que généralement, il faut à peu près facilement 20 minutes pour se remettre dans quelque chose. Voilà, être vraiment focus de nouveau. Donc, moi, je sais que les blocs de temps m'aident beaucoup. Il y en a, ils peuvent bosser un peu sur le pouce quelques minutes et reprendre plus tard. Pourquoi pas d'ailleurs, de temps en temps, tu peux te le permettre, hein, si tu as quelques minutes que tu veux avancer un petit peu sur quelque chose. Mais pour être vraiment efficace et aller en profondeur et aller loin, en fait, le fait de pouvoir se concentrer va vraiment te faire gagner déjà donc du temps, de l'efficacité, donc bah, par ce biais, hein, voilà, de la, du résultat positif qui va en découdre et en découler, et aussi de l'énergie. Et ça va être un cercle vertueux dans l'ensemble. Ce qui est important, en fait, dans tout ça, c'est de mettre de la sérénité dans l'action. Donc, dans l'action, on a du mouvement, effectivement. On peut même avoir le fait d'être justement concentré, focus. On peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose de tendu. Donc, il y a effectivement un minimum de tension, mais ce n'est pas une tension stressée. En tout cas, ce n'est pas celle-ci qui va être la plus efficace. C'est pas une tension où on est complètement crispé. C'est vraiment l'art de pouvoir mettre de la sérénité dans l'action. Et là, ça va être plus fluide. On va prendre l'image de, bah, du lièvre et de la tortue qui est intéressante aussi à ce sujet. Réfléchis à cette fable du lièvre et de la tortue. C'est donc de Jean de La Fontaine. C'est une métaphore qui enseigne la valeur de la constance et de l'attention, plutôt que de la précipitation et de la distraction finalement. Cette histoire illustre l'importance de la persévérance et de la régularité. Dans la réalité, c'est souvent celui qui avance de manière constante et réfléchie qui atteint davantage et plus facilement ses objectifs. Un bon outil pour cela est de fixer des objectifs à court et à long terme en veillant à leur suivi régulier. Donc par exemple, on peut se dire à long terme, j'aimerais arriver là. Par exemple, il y a la méthode des 90 jours. On peut se dire, voilà, en 90 jours, en 3 mois, je vais mettre en place tel projet, par exemple tel projet de publicité ou tel projet de création de contenu. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met des échéances aussi à plus court terme, des objectifs qui sont réalistes, hein, ça c'est important. Sur la semaine qui vient, sur le jour J. On essaye quand même de mettre suffisamment de respiration dans tout ça, dans l'emploi du temps, bah déjà parce qu'on va mieux respirer aussi tout court, mais aussi parce que justement, il y a souvent et quasiment toujours des impondérables. Donc ça permet vraiment de ne pas se retrouver dans une situation stressante qui ne va pas nous aider quand elle est justement dans un trop plein de choses à faire. Voilà, donc vraiment le fait de se mettre des objectifs comme ça, d'être dans la régularité et la persévérance, ça va aider. Alors oui, évidemment, il y a des moments où on peut se retrouver à un petit peu divaguer, mais il vaut mieux pas que ça soit quelque chose de trop fréquent. Si c'est le cas, c'est quelque chose qui se travaille bien. Parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment s'améliorer. Et justement, bah, la pleine conscience est une façon de le travailler. On a aussi, donc, à part la question justement du lièvre et de la tortue, je reviens sur cette question donc de la sérénité dans l'action. L'idée, en fait, c'est de mettre du zen dans le chaos. On appelle ça aussi mettre de la détente dans la tension. Une fois, on en a parlé, alors je ne vous dis pas de faire ça forcément là comme ça, mais par exemple, il y a des personnes qui vont s'entraîner à prendre, pourquoi pas, à faire quelque chose d'un petit peu inconfortable. Donc ça peut être prendre une douche froide, ça peut être faire justement un sauna, ça peut être faire une séance de sport assez high level, hein, assez haut niveau. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le temps de se détendre et ça va nous entraîner à être aussi plus zen en fait dans le chaos, plus détendu dans les tensions et donc plus serein dans l'action. Avant d'en arriver là, c'est quelque chose qui peut se travailler aussi par exemple avec des exercices de sophrologie où il existe notamment des exercices où on va s'activer, c'est un peu plus actif, hein, c'est pour ça que je dis ça. On va par exemple tendre tous ses membres, on peut se mettre debout, tendre tous ses membres, et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va sentir qu'on est là comme si on était en train de pousser vers le sol, en tendant tous ses membres sans se faire mal, bien sûr, et à un moment donné, on va Alors ça, on fait sur l'inspiration. Et on y on va tout lâcher. Et là, on va partir sur l'expiration profonde. Et comme on est sur l'expiration profonde, en fait, ça active le système qu'on appelle donc parasympathique versus donc sympathique ou orthosympathique. Et là, ce qui se passe, c'est que justement, on va mettre de la détente. C'est un peu comme une pédale de frein qu'on active doucement pour pouvoir avancer sur la longue, parce que si on est tout le temps en mode tendu, tout le temps en mode à fond, ça peut créer par exemple des phénomènes de burn-out, donc d'épuisement, voire même des blessures. Hein, voilà, si on est tout le temps en train d'activer son muscle par exemple, sans du tout lui donner des moments de repos, sans lui donner aussi ce qui le nourrit de plein de manières, et notamment aussi hydratation, alimentation, ce genre de choses, ça va pas forcément être productif. Donc le zen dans le chaos. Si on prend l'exemple par exemple donc, de Steve Jobs, qui est justement qui était un adepte du zen, il trouvait la clarté dans la simplicité. Il a appliqué ce principe pour transformer la complexité technologique en produit intuitif et également élégant. La simplicité permet de se concentrer sur l'essentiel et d'éliminer le superflu. Et ça fonctionne toujours très bien. Qu'on aille justement de Steve Jobs, même à Marie Kondo avec la magie du rangement, tout ce qui va être de l'ordre du tri, de la simplicité, éliminer le superflu, ça va vraiment faire gagner du temps, de l'énergie et de l'efficacité. Donc c'est ça, et c'est aussi se concentrer sur l'essentiel. Comme on dit aussi, c'est une façon de faire de la place pour laisser rentrer ce qu'on a envie de faire rentrer. Parce que si à un moment donné, on est, souvent c'est dans des dynamiques de peur du manque d'ailleurs, si on est vraiment sur quelque chose où c'est un trop-plein, on veut tout, tout de suite, on a du mal à dire non, on a tout qui est là et qui nous envahit, ça peut vraiment prendre beaucoup, beaucoup d'énergie. Et aussi, ce qui se passe, c'est que ça ne permet pas de faire rentrer d'autres choses. Ou en tout cas, ça va être plus compliqué de gérer ce trop-plein. Il y a des personnes qui vont être rassurées quand même d'avoir beaucoup d'objets, par exemple. Il faut voir vraiment quel est ton rapport en fait avec ça. Ce qui est sûr, c'est que les résultats montrent que le fait d'éliminer le superflu aide énormément. À la limite, si tu aimes avoir des objets, c'est pas forcément un gros problème. Voilà, il y en a qui collectionnent et ça leur fait très plaisir. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, dans ton emploi du temps, si à un moment donné, il n'y a plus de place, comme on le disait tout à l'heure, hein, pour ce qui peut arriver en plus, ce qui peut arriver que tu n'as pas forcément d'ailleurs prévu, ou pour ce qui te fera plaisir d'ajouter par la suite, effectivement, ça va être plus compliqué s'il n'y a pas de place pour ça. Donc, ça peut toujours être intéressant à des moments dans l'année ou pourquoi pas dans le mois, te prendre un temps pour justement voir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est plus. Ce qui te faisait plaisir à un moment donné peut ne plus te faire du bien plus tard. On le voit bien d'ailleurs dans tout ce qui est couple ou même dans les projets de vie. Donc, et à un moment donné, fais ce genre de choses, que ça peut vraiment t'aider. Après, tu vois si ça te convient, mais ça peut vraiment t'aider de faire du tri. Ça peut être appliqué dans la vie quotidienne, en réduisant les distractions, par exemple, et en se concentrant sur les tâches qui apportent le plus de valeur. Si tu as du mal à le faire, fais-le étape par étape. Si par exemple tu as laissé s'emmagasiner beaucoup de mails ou beaucoup de tâches, tu n'es pas obligé de toutes les faire comme ça en une journée. Ça, c'est important de le savoir. Même si tu es dans une perspective d'éliminer le superflu, cela peut prendre quelques temps avant que tu sois vraiment beaucoup plus libéré de l'excédent. D'accord ? Utilise des techniques de priorisation, comme par exemple la méthode Eisenhower. Ça peut être vraiment un outil efficace. Je te fais un petit topo sur cette méthode si c'est la première fois que tu viens ici. Sinon, tu verras qu'à l'occasion, j'en parle. La méthode Eisenhower, c'est aussi connue sous le nom donc, de matrice Eisenhower. C'est un outil de gestion du temps et de priorisation des tâches. Elle permet de classer les activités selon deux critères, leurs urgences et leur importance. Donc, on a quatre situations. La première, c'est urgent et important. Ça, c'est ce qu'on appelle donc, ce sont les tâches à faire généralement assez rapidement, voire immédiatement. En deuxième catégorie, on a tout ce qui est important mais non urgent. Donc ça, vraiment, souvent, il faut mettre ça au haut du panier parce que souvent, on a tendance à faire ce qui est urgent et pas ce qui est important pour nous. Bon, il faut aussi faire parfois l'urgent. En tout cas, l'important, mais le non urgent, ça, c'est les tâches que tu peux aussi planifier éventuellement pour plus tard. Mais souvent, tu verras que c'est quelque chose qui a quand même du sens pour toi. Voilà, si c'est important pour toi, c'est que ça a du sens pour toi, donc ne les oublie pas. On a troisième point, donc troisième catégorie, ce qui est urgent mais non important. Là, souvent, ce qui est intéressant, si tu peux le mettre en place, c'est de penser à le déléguer d'une façon ou d'une autre, hein. Ça peut être parce que tu l'automatises, ça peut être parce que tu as quelqu'un qui peut le faire à ta place, tu peux payer quelqu'un si tu peux le faire, donc pour ça. Tu peux aussi demander de l'aide à l'occasion. Si tu as du mal, c'est des choses qu'on pourra travailler par la suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant de les déléguer. Bon, sinon fais-les, mais prends en compte que ça n'est pas important, même si c'est urgent. Ensuite, donc on a la quatrième donc catégorie. Ça n'est ni urgent ni important. Alors ça, regarde bien si tu en as. Bon, ça peut nous arriver à tous. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces cas-là, souvent, ce sont des tâches qu'il faut plutôt éliminer. C'est-à-dire que ça n'est pas important pour toi. Et en plus, ça n'est pas urgent. Donc finalement, la plupart du temps, c'est le genre de tâches, si on ne les fait pas, ça change pas grand-chose. Après, si vraiment, voilà, on regarde vraiment en détail, parce que bon, il y a plein de cas de figure, mais c'est intéressant de prendre en compte cette matrice. Cette méthode, elle aide à se concentrer sur ce qui est essentiel. Et on ne se pose pas forcément toujours la question. En tout cas, pas assez. À réduire aussi, ça permet de réduire le stress et d'augmenter la productivité en distinguant clairement, encore une fois, on parle de clarté, les tâches nécessitant une attention immédiate de celles moins critiques, on va dire, moins urgentes, moins importantes. Donc là, c'est intéressant d'utiliser ça. On va voir maintenant, parce que là, on a vu vraiment l'idée de se détendre dans l'attention. On a aussi vu, effectivement, au début, bah, les paradoxes qu'on a tout autour de ça, tous les mythes qu'on a autour, justement, du fait d'accélérer ou de ralentir. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va voir, justement, en mouvement. Qu'est-ce que ça donne? On n'y pense pas toujours, mais en fait, la pleine conscience, c'est pas forcément juste rester là assis en tailleur et respirer dans le silence. C'est plein d'autres manières aussi de vivre la pleine conscience. On peut le faire en marchant, on peut le faire aussi effectivement en faisant une activité. Souvent, on parle voilà, de faire la vaisselle en pleine conscience, mais tu peux aussi faire le ménage, tu peux aussi t'habiller, voilà. T'es pas obligé de le faire H24, mais en tout cas, ça sera intéressant de vivre cette expérience. Ça peut être aussi manger. Là-dessus, il y a la fameuse expérience du grain de raisin, où on peut bah, vraiment avoir une appréhension. On l'utilise souvent d'ailleurs chez les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais aussi voilà, pour prendre conscience de ce qu'il y a là dans notre nourriture, de ce qu'on ingère. Donc là, ça va être au niveau nourriture, mais ça peut être même aussi le parfum que tu portes, ça peut être les textures de vêtements, ça peut être les couleurs qu'il y a dans ton environnement. C'est intéressant effectivement d'utiliser la pleine conscience également dans les activités. Donc, on a la méditation donc en marche. Là-dessus, bah, l'idée c'est par exemple de s'intéresser à une personne qui s'appelle donc Thich Nhat Hanh, si je le dis correctement. Donc marchons avec lui. C'est un maître zen qui enseigne que chaque pas peut être une méditation. Il y a des livres voilà, là-dessus qui ont été écrits, qui nous rapprochent en fait, chaque pas nous rapproche de nos objectifs avec pleine conscience. Cette pratique aide à ancrer l'esprit dans le moment présent. Et c'est très intéressant et très important d'ancrer. On est souvent dans la tête, dans les problèmes, dans les ruminations, dans le et si, j'ai pas bien fait, etc. Et quand c'est comme ça, généralement, c'est qu'on n'est pas suffisamment ancré dans le sol et dans l'instant présent. Le corps est une bonne manière, justement, par exemple, on fait du sport, de pouvoir se réancrer. La respiration est une bonne manière aussi de se réancrer. Parfois, les gens vont l'utiliser aussi d'autres manières, mais en tout cas, ça, c'est des manières, on va dire, voilà, saines de le faire. Donc ça nous rapproche de nos objectifs et ça aide voilà, à s'ancrer donc dans le moment présent, ce qui permet d'augmenter la concentration et la conscience de l'environnement immédiat. Commence par de courtes promenades en te concentrant pleinement sur chaque pas et sur tes sensations. Évidemment, tu adaptes en fonction de là où tu es. Le but, ce n'est pas de te mettre en danger. On n'a pas dit de forcément fermer les yeux. Mais tu peux être là, profiter d'un moment où tu te balades. Ça peut être au bord d'une rivière, ça peut être sur un chemin de campagne ou en ville, dans un endroit, on va dire, relativement sécurisé. Et là, tu te balades, tu te concentres, tu sens. Comme ça peut être sentir la brise du vent sur ton visage. Ça peut être sentir que là, ça te fait du bien d'être en train de marcher. Ça peut être sentir tes pieds qui se posent sur le sol. Ça va être intéressant, ça va activer, ça va entraîner ta concentration. Et donc ça va te permettre de pouvoir être beaucoup beaucoup plus efficace par la suite parce que ça joue beaucoup la concentration sur l'efficacité et donc sur les résultats que tu obtiendras par la suite. Il y a également l'ancrage donc par la respiration. J'en parlais, c'est une bonne manière de s'ancrer, donc je vais t'expliquer un petit peu ce que ça permet. La technique de respiration de la boxeuse Laila Ali lui permet de rester calme et concentré dans le feu de l'action. Donc autant s'y intéresser parce que justement, on le voit là avec ce cas de figure, en fait c'est un outil précieux pour son cas donc dans la boxe quand justement elle pratique cette activité-là. Mais ça peut être aussi un outil précieux dans tous les domaines de la vie. Il faut savoir que la respiration consciente est un outil donc puissant pour gérer le stress, mais aussi l'anxiété. Pratiquer des exercices de respiration comme la respiration profonde ou la respiration abdominale. On a par exemple aussi la cohérence cardiaque qui est très intéressante à ce sujet, qui peut s'exercer en 5 minutes. Ça peut être sympa de le faire 3 fois par jour, mais tu peux au moins voilà, le faire une fois par jour, ça sera déjà positif. Mais 3 fois par jour, ça permet vraiment voilà, d'avoir quelque chose qui reste dans la durée. Ça peut aider à rester centré, même dans les situations les plus stressantes. Voilà, donc quand je dis dans la durée pour la cohérence cardiaque, c'est dans la journée. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on fait une séance de cohérence cardiaque, donc de 5 minutes, ça peut avoir des effets sur plusieurs heures. 4, 6 heures, comme ça, facilement. On peut vraiment, comme les siestes, hein, les siestes, pareil, ça peut avoir des effets sur plusieurs heures. Si on en fait régulièrement, ça peut même devenir quelque chose de tout à fait facile à pratiquer. Hein. Au début, on a tendance à se poser devant. Il y a une application qui s'appelle Respirolax sur le téléphone qui est pas mal pour ça. Respirolax comme à respiration et relax à la fin. Si elle existe toujours, normalement c'est bon. Parce que moi j'utilise. Et en fait, justement, au début, souvent on se met devant. Et puis après, moi je le vois, il y a des moments, je suis en accompagnement et je sens que je suis en train de voilà, d'être dans cette respiration. Ou quand je suis dans la voiture, je me fais une petite pause comme ça. Souvent, je suis en. Voilà, c'est pas forcément moi qui conduis dans ces cas-là. Après, ça peut être dans le train, ça peut être voilà, vraiment plein de situations où tu peux le faire, ça se voit même pas. Et ça te fait comme un massage en plus intérieur. Et ça permet vraiment déjà de rester. Ce qu'on sait avec la pleine conscience, c'est que ça permet de rester plus longtemps en bonne santé. Ça joue sur les télomères aussi. Ça permet de rester. Apparemment, ça jouerait sur le vieillissement de façon positive. Ça aide aussi à rester en meilleure santé. Ça aide à gérer ses émotions voilà, d'une façon plus sereine. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des soucis dans la vie, c'est sûr, mais ça va pouvoir t'aider à mieux les vivre, à mieux faire face à ce qui se passe. Et ce qui fait que aussi, par effet un peu boule de neige positive, c'est qu'en fait, après, tu auras moins peur si des choses arrivent dans ta vie. Donc, ça va t'aider à développer de plus de confiance en toi. Tu sauras que tu auras des ressources. Parmi celles-ci, bon, la respiration et toutes celles que je peux t'apporter régulièrement sur tous les épisodes. Également aussi sur mes autres réseaux sociaux. Ces exemples et outils concrets illustrent des pratiques, voilà, illustrent comment en fait des pratiques apparemment simples peuvent avoir un impact profond sur notre productivité, notre clarté d'esprit et notre bien-être général. Donc, pour conclure, je vais te rappeler les points clés. Intègre des pauses de pleine conscience pour recharger tes batteries mentales. Faut y penser, c'est essentiel. Priorise tes tâches avec attention et intention. attention et intention. Donc attention dans le sens de où est-ce que tu poses ton attention et où est-ce que tu mets ton intention. Voilà, donc priorise les tâches ainsi. Embrasse la pratique de la méditation pour renforcer ta concentration. Ça peut être une pratique qui peut te convenir. Vois si c'est le cas. En tout cas, ça fait du bien au corps, ça c'est reconnu. Ralentis ton rythme pour enrichir ta créativité et ton innovation. Par exemple, il y a plein de fois, moi je l'avais apporté ça aussi quand j'avais fait des interventions en école d'ingénieur sur la créativité. Souvent, en fait, quand on est coincé sur un problème, bah, en fait, un nœud, on ne le trouve pas. Ce qu'il faut, c'est, ce qui est intéressant, c'est d'aller faire autre chose ou de s'intéresser à autre chose. Et là, souvent, on a les réponses qui nous arrivent. Cultive aussi la patience pour permettre à tes projets de mûrir pleinement. Sois présent dans chaque action pour une efficacité maximale. Fais au mieux parce que ça arrive parfois qu'on soit là sans être là. Mais en tout cas, plus tu seras dans cette habitude d'être présent à chaque action, bah en gros, plus tu vas pouvoir te donner dans cette action et donner le meilleur que tu as. Avant de clore ce chapitre, pense à nous soutenir et à donner 5 étoiles à ce podcast pour lui permettre d'aider encore plus de monde. Et dans notre prochaine aventure, Instagram, amis ou ennemis, les erreurs fatales ou en tout cas qui ne sont pas forcément aidantes que tu peux commettre, ça on va pouvoir les voir ensemble. Nous allons déchiffrer les pièges des réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram, voir qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou pas, et comment naviguer dans des eaux parfois trompeuses, parce que on entend de tout, et parfois on est perdu, et on ne sait pas forcément par quel coin prendre ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, mais il faut trouver ce qui te correspond aussi. Mais on va quand même voir ce qui fonctionne bien aussi, ce qui est reconnu. Continue de nous écouter, car le voyage ne fait que commencer, et n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumée, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.